19h-20h, carte postale des artistes avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Bonsoir, merci d'écouter Beurre FM, une nouvelle émission pour cette période estivale avec une invitée de marque dans la mission de nous parler, de nous dresser une carte postale de sa ville natale, ou celle de son coup de cœur. Et c'est la journaliste Radio Hanan que je reçois ce soir. Elle est à la tête de la matinale à Radio Monte Carlo, d'où elle y a. Donc la matinale s'appelle Café Chaud. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir Mourad.
Ça va, tu vas bien?
Ça va, très bien.
Ça fait drôle?
Oui, ça fait drôle.
De parler français.
Justement, j'ai l'habitude de parler arabe parce que c'est la filiale arabophone de Radio France. Du coup, ça me fait tout bizarre en fait d'être devant le micro, mais en français.
Oui, justement.
En langue
française, c'est
pas...
RFI en arabe.
C'est voilà, c'est Monte Carlo Doualia.
C'est ce que j'explique aux gens qui ne connaissent pas Monte Carlo Doualia. Je leur dis, mais c'est RFI, c'est en mode arabe. Et avant justement de parler de ton métier qui te passionne, je suppose, celui de la radio arabophone, mm-hmm. Monte Carlo Doualia, rêvant, puisque ce sont des moments de bonheur, la radio, mm-hmm. en dehors de ton adresse réelle. Dis-moi, est-ce que tu as une adresse comme ça, rêvée, fictive, telle que tu aimerais la lire au dos d'une carte postale? Est-ce que tu rêves d'une autre adresse que celle que tu as aujourd'hui?
Comme mon adresse actuelle.
Ne me dis pas Miami, mais...
Non, pas Miami, mais j'ai toujours en fait une carte postale d'une ville que j'ai visitée il y a 3 ans. Il y a 2 ans ou 3 ans, je pense, et ça me vient à l'esprit à chaque moment, à chaque instant. Et je ne sais pas pourquoi, ça me vient souvent à l'esprit quand je suis chez moi, alors qu'il n'y a aucune ressemblance entre Agadir, par exemple, ma ville natale. Mm-hmm. C'est Agadir où j'ai vécu pratiquement 27 ans de ma vie. C'est là-bas où j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai travaillé même. J'étais quand même journaliste pendant pas mal d'années. Et c'est la Havane, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. C'est la Havane qui me vient souvent à l'esprit et que je vois même parfois un peu partout dans le monde quand je visite des coins du monde qui sont différents. Là où on voit un peu tout, mm-hmm. et là où on se sent bien, vraiment.
Et tu as été au moins?
Oui, j'étais à La Havane.
Combien de fois?
Ben, j'étais à Cuba, je suis restée 20 jours à Cuba.
Ah oui.
J'ai fait le tour de Cuba,
ouais.
Vignales, Varadero, Trinidad, Santiago de Cuba. Mais La Havane, je suis restée 10 jours sur place. Mm-hmm. J'ai fait 5 jours, après j'ai fait le tour. Et on est revenu, moi et mon ami, encore 5 jours à La Havane. Et on a vécu à la cubaine. Et le fait de vivre à la cubaine, parce qu'on a...
C'est quoi vivre à la cubaine?
Alors, vivre à la cubaine, c'est très, très difficile. C'est ne pas avoir accès à des éléments de vie qu'on a l'habitude, par exemple, d'avoir même au Maroc. Parce qu'on dit... On parle souvent de la misère. Pourquoi? Justement, c'est très important, ce que je veux dire.
Vas-y, t'as le micro, éclate-toi.
Parce que souvent, on a toujours dit au Maroc, il y a la pauvreté. En Algérie, il y a la pauvreté. En Tunisie, dans le Moyen-Orient. Mais je ne me suis jamais vue en plein pauvreté, dans un pays latin et proche des États-Unis, où tu vas débarquer en fait avec un sac à dos, tu vas dire « Ah oui, tu vois, c'est la mer, les îles, c'est beau. »
Le monde rêvé.
Le monde, voilà. Tu as envie de visiter Cuba, tu te dis « Voilà, c'est la musique, mais il y a une pauvreté. » Vivre à la cubaine, c'est aller chercher ses œufs qu'on ne trouve pas. C'est chercher de l'eau qui est difficile à trouver. Il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas tous ces petits péchés mignons qu'on a partout, même moi au Maroc. Moi, je trouve qu'on vit le luxe.
Mais le Maroc, il y a les mahlaba où tu...
Il y a les mahlaba où tu manges très très bien, il n'y a pas ça. Imagine que j'avais ramené des biscuits avec moi depuis Paris. Et le premier jour, quand on a débarqué, on avait du mal à trouver un appartement. On a cherché, on était dans... C'était difficile en fait. Mm-hmm. C'est soit tu vas dans les 4 ou 5 hôtels de luxe qui sont au cœur de la Havane et là tu payes plein pot, soit tu vis à la cubaine parce que autour, et ces hôtels-là, ils sont entourés de pauvreté, ils sont entourés de gens qui vivent l'embargo. Donc on a dit, moi et ma pote Nejma à l'époque, on a dit, on va vivre à la cubaine, on va aller chercher la viande, les légumes, les œufs, le lait, ce qu'on ne trouvait pas tous les jours parce qu'on ne comprenait pas comment ça fonctionne. Mmh. Ce qui se passe à Cuba, c'est que tout est rationné. On fait la queue pour la viande. À partir du moment où il n'y a plus de viande, il n'y a plus de viande pour tous ceux qui attendent depuis, par exemple, 10 heures du matin. On cherche les œufs. Par exemple, on a fait 3 jours pour trouver des œufs. Et où est-ce qu'on va les trouver? Parce qu'on a raté le jour de distribution des œufs. Donc, on est allé chercher chez les particulars, chez les gens, les habitants.
Mmh,
il pleuvait. Je me rappelle Je me rappellerai toute ma vie de ce jour, pendant 3 jours. Et moi, je suis partie pendant une période du ramadan, donc j'ai voulu faire le ramadan là-bas. Je me suis dit, c'est pas grave, je peux aller à la plage, mais en même temps, je peux jeûner. Sauf qu'il n'y avait rien à manger. Je n'avais strictement rien à manger. Au retour de Cuba, j'ai perdu 8 kilos.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, je te jure. Donc, on est allé à la recherche des œufs. Le premier jour, on n'a pas trouvé. Le deuxième jour, on a compris à travers les gens que pour avoir les œufs, il faut aller chercher dans les rues et tout ça. Il pleuvait, on était dans un sale état. Et là, on va trouver des œufs. Et le SMIC, vite fait pour conclure, le SMIC à Cuba, c'est 15 euros. Donc, on a donné 5 euros pour une femme qui nous a sorti les œufs qu'elle a achetés il y a 3-4 jours. Donc, elle est restée sans œufs pour nous donner à nous. Donc, on a donné 5 euros, ce qui est énorme pour un Cubain. Il y a longtemps aujourd'hui, je pense. Il y a 3 ans, je pense que c'est toujours la même chose aujourd'hui. Mm-hmm. Mais apparemment, ça commence à changer petit à petit.
C'est ce que j'ai cru entendre. Donc, finalement, tu gardes de très bons souvenirs de ce voyage.
Très, très bons souvenirs. Très bons souvenirs.
Parce que réussir ses vacances, c'est tout un art. Et je pense que tu as réussi ce pari. Et je sens que tu es plutôt curieuse et joyeuse parce que tu découvres une nouvelle ville, mais aussi un nouveau mode de vie.
Ouais.
Et tu as appris beaucoup de choses parce que tu en parles aujourd'hui, quelques années après. Et quelle serait ta destination aujourd'hui, même réelle ou fictive, comme tu veux, mm-hmm. pour ton prochain voyage ?
Alors, sincèrement, ça fait une semaine ou 2 semaines que je parle d'Alger. Donc, j'ai envie d'aller visiter Alger. Les billets sont très chers quand même. Hein. Ce n'est pas donné. Hein.
Je regarde.
800 euros, 700 euros le billet, c'est hyper cher.
Ça coûte plus cher que d'aller à La Havane.
C'est pas faux.
Et c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait un haouga.
C'est vrai.
Non, Alger, alors je te conseille, je le conseille, si tu n'as pas de contraintes, va après. C'est-à-dire à partir de septembre. Tu peux aller à Alger entre septembre et juin. Les billets sont raisonnables.
Oui, justement.
Et même c'est plus agréable. Il y a moins de monde, donc tu vas apprécier.
Mon père a visité Alger, c'était son premier voyage quand il était jeune. Donc, j'ai pas mal de souvenirs parce qu'il nous ramène pour la première fois des cadeaux. Il m'a ramené une poupée. Hein. Alors, mon père, à l'époque, de ramener une poupée, c'était pas du tout possible. Mais quand même, quand il a visité Alger, il a ramené une poupée. Et depuis un moment, vu que j'ai pas mal d'amis algériens, j'entends souvent parler d'Alger avec ce qui se passe dernièrement. On a regardé beaucoup Alger. Donc, j'ai souvent cette carte postale où il faut aller. Il faut aller visiter. J'ai des cousins aussi en Algérie. Donc, il va falloir aller visiter Alger.
Il faut participer. Justement, tu parles de ces événements. Comme ça, tu sortiras un vendredi pacifiquement, manifester avec les Algérois. Voilà, et tu vas voir, tu vas être... être ému et puis c'est beau à voir. Je te donnerai quelques contacts. Toi, tu es parisienne depuis un petit moment. Ton coup de cœur parisien, est-ce que c'est une ville que tu as adoptée et est-ce que tu te sens parisienne de cœur?
De cœur, oui.
D'âme. Ouais.
J'ai pu faire à Paris ce que je n'ai pas pu faire peut-être à Agadir. J'aime la danse, je suis passionnée de danse, donc je danse un peu partout dans Paris et je pense que c'est particulier quand il fait beau à Paris, tu as des groupes et des spots
sur
un peu partout,
sur les quais,
on se
Tu es plutôt latine ?
Ouais, c'est voilà.
Donc c'est les quais Saint-Bernard, certainement.
C'est les quais Saint-Bernard, c'est salsa, bachata, afro, kizomba.
Depuis toujours d'ailleurs.
Ça fait 10 ans que je danse sur les quais et ça ne change pas. Chaque mois d'août, je ne voyage pas parce qu'il faut danser sur les quais, il faut aller danser. Parce qu'en fait, on passe une après-midi.
Le quai Saint-Bernard, c'est juste...
l'Institut du Mandarin.
Voilà, ceux qui... les non-parisiens.
Exactement.
Ou ceux qui ne connaissent... Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne connaissent pas Paris. J'ai honte pour eux.
Moi, je ne connais pas tout Paris quand même.
Non. Je parle des...
Mais je connais pas mal de choses dans Paris.
Oui. Pour faire de Paris la ville parfaite, qu'est-ce que tu ajouterais ? Tu ajouterais quoi ? Parce que Paris...
Ouh là là,
c'est une ville séduisante, chère, accueillante, tout ce que tu veux.
Ce que je rajouterais.
Alors moi, je vais te dire ce que j'ai rajouterais.
Ouais.
Le sourire, parce qu'on manque de sourire parfois. Et toi, tu mettrais quoi ?
Un petit peu de civisme quand même.
Et hop.
Ouais, c'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est vrai.
C'est vrai que les Parisiens, parfois, dans le métro, ils ne sont pas très gentils.
Ouais, ouais. Il y a des maladresses.
Mmh. Juste avant d'écouter un peu de musique, tu parlais tout à l'heure d'Agadir. C'est vrai que ça t'évoque c'est une ville qui évoque ton enfance.
Bah oui, c'est l'enfance. C'est toute ma vie. C'est une ville que j'aimerais bien voir prendre un autre élan, se développer.
Elle se développe. J'étais de passage.
Net. Hein, je sais pas comment le dire en français.
Un soupir, j'ai soupiré. Ouais. J'étais de passage, vraiment de passage. Hein. Mm-hmm. Et j'ai vu, ça faisait quelques années que je n'ai pas été, peut-être 7-8 ans.
Mm-hmm. Ça a
changé. Je ne sais pas l'extension de la ville, agréable. Mais je ne sais pas.
Pour les vacances, c'est magnifique.
Ouais.
Pour les vacances, c'est magnifique. Mais moi qui ai vécu à Agadir, qui a grandi là-bas, qui a fait ses études là-bas, c'est la souffrance, c'est une souffrance quotidienne parce que les transports, ce n'est pas du tout le bonheur. Les études, pour finir ses études après le bac, tu as 3, 2 choix, 4 choix. Allez, vraiment, si vraiment, vraiment, tu as le choix. Ça ne se développe pas économiquement. C'est une zone, en fait, enterrée, comme on l'appelle, en fait, au Maroc. C'est une zone négligée. Chaque année, je vois toujours des commerces qui ferment de plus en plus. Mmh. Il y a beaucoup d'hôtels. Il y a énormément d'hôtels.
C'est vrai.
Et il y a beaucoup de chômeurs. Il y a plein de choses, il y a plein de problèmes, il y a de la prostitution parce qu'il n'y a pas de travail. Donc tout ça me peine le cœur à chaque fois que j'y vais, alors que je la connais très très bien, Agadir. J'ai fait des reportages à Agadir, j'ai sillonné la ville quand il y avait des bidonvilles, je connais tous les coins de cette ville. Et 9 ans après revenir et voir la même chose, voire pire, ça me peine le cœur. Donc j'ai envie de l'avoir changé.
Inch'Allah, qu'est-ce qui te plaît dans cette ville malgré ce que tu dis ?
Oh, il y a pas mal de belles choses. Il y a la mer, il y a la zone sauvage, comme on l'appelle. Il y a toute une zone en fait de plages sauvages qui est magnifique. Il y a le surf, il y a le poisson, il y a les gens qui sont gentils.
Ah oui, agréable.
Plein de choses. Ouais,
parfois
ouais.
Ça comble.
Ouais, ça.
Le comble. Sourire dont on parlait.
Oui, c'est vrai.
Le sourire qui manque à Paris,
vrai,
le retrouver à Agadir. Et puis à Agadir, pas loin, il y a Oum qui est de parents marrakechis, qui est basé à Casablanca.
Et la vagabonde, je l'appelle.
Et puis elle est sahraoui un peu comme toi.
Exactement.
Mais qui a immigré, qui bouge, une vraie nomade. Mm-hmm. Et qui fait. Même sa musique, elle est très nomade.
Nsma'ouha Dabadaba.
Dabadaba. Et d'ailleurs, c'est le titre.
Voilà, exactement. Tu vois.
Dabadaba, c'est son nouveau single. Et puisque elle s'est absentée 2 ans, le temps de préparer un album, un nouveau disque qui sort, je ne sais pas quand. Mm-hmm. Mais en tout cas, le single. Est disponible. Tu veux qu'on l'écoute ? Et c'est ton choix, Hanan.
Ah, vas-y.
On l'écoute d'abord. C'est sur Beurre FM.
يكون اه يا نار
postale des artistes revient dans un instant.
Revient dans un instant.
19h20. Carte postale des artistes avec Mourad Achour sur Beurre FM.
On a écouté l'extrait de. Non, pas extrait de son nouvel album, parce que je ne sais pas quand est-il sort, mais le nouveau single de qui s'appelle Daba, il est juste magnifique. Elle a trouvé, elle a ramé pour trouver son style, et là, sa direction, elle est parfaite. Du jazz à la marocaine, un peu à la sahraoui, avec des sonorités du sud, et bah, chapeau, quand tu veux, hein, viens à Beurre FM, on t'attend.
Avec plaisir. C'est juste à rajouter, c'est la première qui a mis en valeur ce qu'on appelle les ahazij, la musique populaire marocaine. Elle l'a mis sur un chemin un peu plus évolué qu'avant. Donc c'est du jazz, c'est de la fusion, mais c'est magnifique ce qu'elle fait, sincèrement.
Oui, ici à Beurre FM, on la suit depuis très longtemps, où elle était encore choriste de Barry. Et oui.
Ah ouais, j'ai oublié Barry. Bravo.
Ben oui.
J'ai oublié, c'était la première chanson, moi, quand j'ai découvert c'était avec Barry.
Ben oui, elle était. Voilà. Après, elle a fait un peu d'électro, elle se cherchait, puis bon, récemment, elle a trouvé son chemin et on la félicite. Sinon, à la radio, Hanan Abdallah, qui est notre invitée, elle est à la tête de la matinale de Monte Carlo d'Oelia en mode langue arabe. Là, c'est en français, donc ça lui fait très drôle. Donc sinon, ça a toujours été le métier que tu comptais faire depuis toute petite, la radio ?
Non, je ne vais pas mentir.
Non, je ne sais pas, je te pose la question.
Je ne vais pas mentir. Je ne pensais pas être journaliste.
Tu voulais être pilote ?
Sincèrement, je ne savais pas du tout. On ne m'a jamais posé cette question. Je ne savais pas du tout. Tout ce que je savais à l'époque, c'était ma mère. Elle nous imposait de faire sciences expérimentales. Tout le monde. On était 6. T'arrives au bac, sciences expérimentales. Tout le monde. Donc, en fait, c'était un peu difficile parce que je voulais faire littérature. J'aimais bien la lecture, mais je ne lisais pas beaucoup. Et à chaque fois, je voyais un livre. Par exemple, ma sœur, elle était, on va dire, plus âgée que moi. C'est la plus grande. Donc, à chaque fois, elle ramenait un livre, je le gardais. Et quand j'ai voulu faire littérature, on m'a pris pour quelqu'un qui ne veut pas évoluer. La littérature, c'est pas bon, tu vas rien faire. C'est les paresseux qui font ça. Donc, j'ai eu peur. J'ai fait sciences expérimentales. J'ai galéré pour avoir mon bac. Je l'ai eu quand même. Mais avant d'avoir le bac, on va dire qu'au moment quand on a commencé l'orientation, en fait, il y avait pas mal de choses. Et je me suis arrêtée un jour devant l'affiche, en fait, dans laquelle, pour accéder à l'école de journalisme de Rabat, l'ESIG, il faut avoir, en fait, minimum 15 de moyenne. Et moi, je n'avais que 12. Donc, je me suis dit, journaliste, je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vais faire management. Mmh. Alors, j'ai pris mon bac, j'ai postulé pour une école, j'étais retenue, j'ai fait le concours et j'ai préparé mon diplôme dans ce sens-là. Et puis, ce qui va se passer, c'est que j'ai postulé à l'ANAPEC. Je me suis inscrite, en fait, pour changer de... On va dire qu'après un an de travail dans tout ce qui est finance, gestion et tout ça, je ne me retrouvais pas parce qu'il n'y a que le domaine hôtelier à Agadir. Donc, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et puis, je ne voyais pas que c'était intéressant. Et un jour, on va entendre parler de la libération du champ audiovisuel au Maroc. Et c'est là qu'on va créer, je pense, 4 ou 5 radios privées. Parmi ces radios, il y avait la radio du Sud et pour la première fois, la région de Sousma Sadra, elle allait avoir sa radio. Mmh. Donc, je reçois un mail, je ne sais pas comment, alors que je devais signer un contrat de travail avec Universiapolis à l'époque, parce que j'étais l'assistante d'un grand directeur là-bas. Et puis, je reçois un mail comme quoi, voilà, je suis le directeur, je me rappelle très bien du Jalil Nouri, d'ailleurs, que j'adore toujours. Il me dit, voilà, on est une nouvelle radio sur Agadir et tout ça, est-ce que vous êtes prête pour passer un entretien ? J'envoie un message parce
rien
à voir, ça n'a strictement rien à voir. Donc je réponds, on me répond et là je décroche un entretien le deuxième jour. Mm-hmm. Par contre, en fait, je me suis dit la personne pour laquelle je travaillais, c'était quand même quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses sur Agadir. Donc je lui dis, mais j'ai reçu un mail bizarre et tout, mais je voudrais quand même vous dire, voilà, j'ai reçu une proposition, mais je ne suis pas sûre parce que personne ne parle de cette radio. Il m'a dit, attends, je pense savoir c'est qui, c'est comment et tout. Il appelle un de ses associés. Il lui dit, voilà, j'ai une de mes employées qui a reçu une proposition pour travailler dans une radio. Ça s'appelle Radio Plus à l'époque et tout.
Elle existe toujours, je crois.
Voilà, elle existe toujours. C'est une radio nationale aujourd'hui. Et là, il va lui dire, effectivement, je travaille avec eux. Oui, oui, tu peux lui dire que ça existe et tout. Je passe l'entretien, j'étais retenue. Et puis, ça a commencé comme ça.
Assez drôle. Moi, je pensais que c'était un rêve de petite qui s'est réalisé, mais finalement, non. Alors aujourd'hui, la radio, est une vocation pour toi ou une passion?
C'est une passion.
Aujourd'hui, c'est devenu une passion.
C'est
drôle, hein,
ouais, c'est
comment tu l'as développé, cette passion qui n'était pas au départ...
Tu n'étais pas un rêve.
Voilà, tu n'étais pas destiné à faire de la radio. Parce que généralement, souvent, on est destiné, même petit, à faire la radio. J'ai reçu, je ne sais plus qui, une journaliste il y a un petit moment, elle me disait, je m'enregistrais quand j'étais petite.
Puis, non, moi, je chantais quand j'étais petite. J'aime bien le chant.
Alors, tu sais chanter, tu sais danser?
Je veux bien te chanter un truc, mais j'ai peur que les auditeurs, en fait...
Non, alors, c'est pas la
peine. Regarde les auditeurs d'hier.
Alors, c'est pas la peine. tu te vois faire autre chose aujourd'hui, Hanan Abdallah?
Oui.
Mais à part danseuse et chanteuse.
Journaliste, danseuse. J'adore en fait la photographie. J'adore les photos. Je prends souvent. J'essaye de prendre de belles photos. Mais je me vois bien faire quelque chose dans ce sens-là. Me spécialiser.
Donc, mais t'as pas besoin, franchement, de te reconvertir. Je parle de reconvertir.
Changer complètement.
Voilà, parce que non, je ne peux pas, parce que on ne peut pas se reconvertir quand on est artiste. Dans l'âme, on peut faire à la fois la radio et la photo. Parce que là, ton premier domaine, c'était autre chose.
Le premier domaine, c'était...
Tu te vois faire autre chose complètement?
Non. Franchement, le jour...
Parce que la photo, ça reste, ça reste de l'art, comme la chanson, comme la danse.
Mais en fait, j'ai une philosophie dans ce sens-là.
Vas-y.
Parce que quand j'ai fait mon premier diplôme, en fait, je me suis dit, voilà, je vais rester dans un bureau cloîtré entre quatre murs. Je n'allais pas changer de...
L'horreur.
Voilà, exactement, l'horreur. Aujourd'hui, je me retrouve journaliste, je fais de la télé, je fais de la radio, je fais aussi de la télé de temps à autre. Mais je me dis, si j'ai pu changer ça, c'est que demain, je peux faire autre chose et ça ne va pas me faire du mal, en fait.
Ouais.
En fait, je suis quelqu'un de très... je suis positive, en fait, beaucoup. Donc, je ne me dis pas, si demain, je ne fais plus de la radio, ça va. Non, je peux faire autre chose. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a... Je ne te parle pas de la pagaille des réseaux sociaux d'aujourd'hui.
Je vais en venir sur les réseaux sociaux parce que tu es friand comme certains journalistes. Mais restons d'abord à la radio, parce que tu fais la radio depuis quelques années à Monte Carlo d'Oelia.
Depuis 9 ans. 9 ans à Monte Carlo et 5 ans avant.
Et la matinale?
Et la matinale depuis 6 ans.
6 ans, aïe aïe aïe. Et justement, quel événement comme ça, avouable évidemment à la radio, qui t'a le plus marqué dans cette carrière de quand même quelques années, de 9 ans, 10 ans presque, radiophonique? Il y a un artiste, il y a un événement, il y a quelque chose qui te marque encore aujourd'hui?
Il y a un événement qui m'a, on va dire, une délocalisation qui m'a marqué, mais énormément. Parce qu'en fait, on est écouté en Mauritanie. En fait, pour expliquer, Monte Carlo d'Oelia, je répète, c'est la filiale arabophone de Radio France qui fait aujourd'hui partie d'un grand groupe qui est une académie aussi de formation, c'est France Média Monde. On est écouté dans tout le Moyen-Orient, sauf au nord de l'Afrique, en bande FM. Et on est écouté en FM en Mauritanie, à Nouakchott, Nouadhibou et tout ça.
Au Maroc, pas en Algérie, pas en Tunisie.
Non, sur Internet, au Maroc, en Algérie,
oui, bien sûr,
en Tunisie.
Non, mais en FM.
Mais en Libye, on a des bandes FM, on est écouté en FM.
C'est juste les trois pays.
Voilà, juste ces trois pays-là, parce que c'est des pays, on va dire, c'est nationaliste. C'est la protection aussi de d'autres médias dans le pays. Par exemple, France Média Monde, elle a essayé avec le Maroc, mais ça n'a pas fonctionné. Ils essayent toujours, je pense, mais c'est pas... Ça ne va pas être facile. Hein,
sais qu'en Algérie, ce n'est juste pas possible.
Voilà. Au Maroc, ce n'est aussi pas possible. En Tunisie, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, revenons à ce que je disais.
Oui, Mauritanie.
On est écouté en Mauritanie et on va découvrir en 2014, quand on a décidé de faire cette délocalisation et de faire notre émission depuis Nouakchott, qu'on est la première radio en Mauritanie.
Waouh.
On a été reçus. J'étais choquée. J'étais choquée agréablement.
Oui.
J'ai pleuré parce qu'en fait, je descends de l'avion, moi et mon binôme, pardon, et on avait du lait, des dates. On était reçus. Genre, on était des
comme
héros. J'ai dit, mais je faisais rien, moi. Pourquoi vous venez comme ça?
Comme une sultana.
En fait, ça m'a humiliée. Je ne savais plus quoi dire. Merci. Je ne savais plus quoi dire. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. ce n'est pas possible qu'un peuple, que la gentillesse aille au-delà de ça, on va dire d'une personne qui va te dire « Ah, mais j'aime bien ce que tu fais et tout ». Et puis, on a été traités comme des rois. Et je n'ai jamais oublié ça.
C'est fou. Hein.
C'est fou. J'adore ce peuple. Ils sont gentils, ils sont d'une gentillesse.
C'est des Sahraouis.
Ils sont respectueux, ils ont un respect, mais je ne sais pas quoi dire.
En plus,
c'est gravé dans ma mémoire.
Et puis, c'est un peuple Hassani qui maîtrise très bien la langue.
C'est un pays de poètes aussi, il ne faut pas l'oublier.
Oui, avec tous ces grands poètes et poétesses, ces grands artistes, exactement. Ils ont marqué. D'ailleurs, une des chanteuses mauritaniennes, j'oublie son nom, que j'ai reçue.
Je perds des noms.
Que j'ai reçue, mais on va en parler en septembre, Inch'Allah. Ouais. Où elle a posé sa voix sur pas mal de titres, sur le nouvel album de Tina Riwen.
Ah ouais.
Et pour que Tina Riwen accepte que des femmes. Donc, ils ont choisi une mauritanienne. Le direct, c'est quelque chose qui te plaît, qui dynamise, c'est vrai, parce que tu te lèves à quelle heure?
Ah, je me lève à 6 heures.
Ah, et ça commence à quelle heure, ton direct?
Alors, le direct, on dit bonjour particulièrement, on va dire, je dis bonjour à 8h04.
Ah, ça va.
Mais bon, je me lève à 6 heures, le temps de me préparer, de partir, le chemin entre...
Oui, sais, parce que ça commence parfois à 6 heures, 7 heures, donc ça
va. Non, moi je dis bonjour à 8h04.
Tel réveil joyeux ou difficile?
En fait, on est calé sur le Moyen-Orient.
Ouais.
Donc en fait, nous, quand on fait 8 heures, c'est parfois 10 heures, c'est 11 heures dans les pays du Golfe. Donc on est calé par rapport aux pays du Moyen-Orient.
En même temps, vous êtes décalé.
on est calé, décalé. Hein. C'est le coupé décalé.
Et je disais juste, avant d'écouter un autre morceau musical, le temps réveil, il est comment? Plutôt difficile, plutôt joyeux, plutôt...
Non, plutôt joyeux.
Joyeux.
Je me réveille toujours avec de la musique. Je mets un peu de musique, un petit café, puis ça démarre comme ça.
Tu écoutes quoi pour te réveiller le matin?
Alors, je ne suis pas difficile. Je vais toujours sur YouTube pour voir les tendances. Je n'écoute pas toutes les tendances, mais je sélectionne beaucoup ceux qui viennent du Maghreb, en fait.
Parce que
Maroc, Algérie, Tunisie.
Voilà, parce que là, tu découvrais récemment Al-Hor.
Ouais, exactement.
Morad.
Voilà. Et ben, je l'ai découvert comme ça.
Ouais.
Je me suis réveillée. En fait, j'ai regardé comme ça YouTube parce que je prends un petit genre 5 minutes avant de me réveiller. Je me...
Ouais,
comment
voilà.
Je m'étire.
Et puis les yeux
voilà,
collés au téléphone.
Exactement. Et puis, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Et puis, j'ai découvert Al-Hor comme ça. Et j'étais... Ouais. Franchement, j'ai aimé sa chanson.
Et du coup, j'ai été chercher parce que je ne le connaissais pas. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un natif de Meknès, mais qui a vécu dans le nord.
Fnedr, il a vécu. Fnedr,
donc voilà. Et paraît-il, c'est le poète, c'est le... Enfin, mince, je fais du bruit. c'est la musique urbaine.
Ouais.
Il est...
C'est un peu... Moi, je considère son style un peu maghrébin.
Voilà.
Propre marocain.
Oui, c'est vrai que dans son accent, vous allez le voir. Et puis, ils disent en arabe, j'ai lu, « Cher l'Hazan ».
Ouais, c'est un peu triste. Mais j'aime bien ce qu'il a. J'aime bien les paroles, j'aime bien la musique. Moi, je suis souvent sensible à la musique, en fait, aux instruments.
Voilà, et lui, son titre, « L'Agrib », on l'écoute, « Al-Hor ». C'est le choix de notre invité de ce soir. C'est sa playlist, Hanan Abdallah sur Beur FM.
نتوما سباب ايده وليت هكذا خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط بارده القلب قصاح والكبده جامده نتوما سباب ايده وليت هكذا خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط بارده القلب قصاح والكبده جامده نتوما سباب ايده وليت هكذا كيقولوا في شكات ما نرضى بالدلمه مني كوبيا موسواس من الثقة عندي فوبيا عندي كارتة في آيفون جوج في نوكيا ونماري ديال صحاب المصالح بقى مطلوكيا المورا العالي والوليد راد الخوانة كتسنى ونطيح بدربة قاد ما ناسي رمادي ولا ضربي ماضي قلبي بحر كيهيج وعقلي وديانو هادية يا ما كانوا كيشوفوني بشوفة ناقصة واللي بغيتها ما كانتش بيا حاسة كانت كتسنى حدي وطيور وانا كنسنى تون القهرة اللي حابسة وغريب ماشي في حال كلشي وبزاف فيهم كان باقي ما فهمش باللي راه عنيس حالي ما صبروش تبسمت من اللي تسنى ونت في زق رموشي وحاس غنتخان ما عارف من شكون من عتبة مرشوشة ولا من شي فخ مخزون من الغرب اللي بان حمامة وبدل غير اللون ولا من الحمامة اللي علموها كيف تخون خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تثبت باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سباب ايدا وليت هكدا خلي ودموعي راك تكون في قبري وعلى خدي تثبت باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سباب ايدا وليت هكدا خياب الحال يا اما قلوب ظالمة واللي تباغي نموت غير موتا محتارمة ولا جات فيا ما تخافيش عليا يا اما غايت شفه وكتر لا شافوكم ألمة كل واحد فينا باش مضروب وكيفاش معطوب كل طريقة ديالو كيفاش كيخبي ندوب شحال ضحكوا معانا فاتونا وهبطوا الدموع شحال بكينا ويمكن حسوا بينا غير الشموع ياللي حسيني بحالي واش كضلني شوفكوا الناس كل شي كيفكر في راسو حرب يصلحتو في آلة راس ما كيشوفوش القلب كيشوفو غير الباس اسقل لهم ولد الناس وهما بغاو اللي لباس وباقي كان حساب شحال من واحد واعد وخلاف جرحني مزيان وخلاني نزاف أسيته في ظهري وعطني من الكتاب شكون باغي زيد اكثر ومن همومي خطاب من همومي منك الفرحة اللي مو حلوة شتومي من الكوابيس اللي كنشوفها في نومي واش مرتاحة دابا يا نفوس اللي تلومي خلي ودموعي راكدة تكون في قبري وعلى خدي تخبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايدا واللي تهكدة خلي ودموعي راكدة تكون في قبري وعلى خدي تخبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايدا واللي تهكدة
Carte postale des artistes revient dans un instant. 19h-20h, carte postale des artistes avec Mourad Achour sur Beurre FM.
On écoutait le Hur, c'est le choix de notre invité de ce soir, Hanan Abdallah, journaliste à Radio Monte Carlo de Welia, qui justement nous parle de son travail, son travail matinal. Tu te réveilles pas trop tard. C'est 2 heures d'émission ou
c'est 3 heures.
3 heures d'émission. Alors justement, comment on prépare ces 3 heures d'émission, Hanan?
Comment c'est, on prépare 3 heures d'émission?
Café chaud, c'est toi, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe.
C'est un grand travail d'équipe. On ouais, est deux binômes chance. Déjà. Voilà, on est deux personnes à présenter ces matinales et les préparer aussi. On a une assistante aussi qui travaille avec nous. Et puis voilà, il y a un technicien de son, c'est l'indispensable. Donc c'est le travail de toute l'équipe en fait. Mmh. Les journalistes, ils font la recherche, ils trouvent des invités, ils trouvent les sujets. Et puis le reste de l'équipe en fait, ils sont dans le booking, dans la préparation, dans l'aide en fait. Ils apportent de l'aide en fait aux journalistes qui présentent et qui préparent aussi l'émission en même temps.
Ce qui est bien, c'est que vous êtes en alternance avec deux binômes.
Exactement. C'est hyper important parce que 3 heures, c'est pas facile à tenir en fait.
Et puis tous les matins. Ça use.
Eh oui.
Est-ce que je pourrais le faire? Je crois que non. La réponse.
Tu n'as jamais essayé les matinales?
Si, très longtemps.
Je rappelle un truc hyper important, c'est que tu étais aussi un des invités de Café Chaud. Et, ouais. Et j'étais agréablement surprise parce que
pourquoi
tu avais une langue arabe littéraire magnifique.
Non, tu exagères.
Ah si. Tu ne le dis pas, mais c'est vrai. Hein. C'est
non,
vrai.
Je parlais de Darij al-Muhaddaba.
دارجة مهذبة ولكن كانت عربية واضحة.
je vais pas refaire l'expérience ce soir.
Avec plaisir, c'est quand tu veux.
Non, je peux pas. Non, ce soir, je veux dire, je vais pas parler arabe, sinon nos auditeurs vont croire qu'ils ont changé de fréquence. Alors dis-moi, vous, dans votre émission, c'est vraiment du journalisme culturel que vous faites ou est-ce un peu politique le matin? Vous mélangez.
Oui, un mélange. Il y a un mélange en fait d'actualité, de sujets, d'invités. On passe de la culture à l'économie, à la politique. On fait tout en fait.
Ah oui, donc il faut une culture très vaste. Hein.
En fait, il faut justement une culture très 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 vaste parce qu'on est écouté dans tous les pays presque du Moyen-Orient. Et par exemple, quand tu dois parler de l'Égypte, tu dois avoir quand même une culture générale importante. Quand tu dois parler des pays du Golfe, il faut savoir et connaître ces pays. Quand tu dois parler du Liban, de la Syrie, de l'Irak, il faut savoir et connaître ces gens, la culture, la société. Donc, ça m'a permis, d'une part, en fait, de découvrir pas mal de choses. Mmh. Parce qu'en fait, on va dire que j'avais une image, un stéréotype de choses et de personnes et tout. Et puis, avec le temps, en travaillant à Monte Carlo de Welia, j'ai changé beaucoup de choses et beaucoup d'idées. J'ai découvert plein de choses. Culturellement, c'est très, très riche.
C'est vrai qu'on apprend. Et puis, je ne sais pas comment vous faites pour rester à jour à chaque fois, parce que... C'est un monde qui bouge tout le temps.
C'est de la recherche, c'est les réseaux sociaux aussi. C'est tout un travail de tarabous, comme on dit. Ça veut dire
c'est l'aspect que tu préfères dans ce boulot?
C'est l'aspect, ça veut dire
Quel aspect, allez, où je, qu'est-ce que tu aimes dans ce boulot?
J'aime ce boulot, en fait, cette diversité culturelle. Sincèrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, je tiens bon face à ces matinales, parce que ce n'est pas facile,
non, je vois,
c'est que chaque instant, chaque jour, on a un invité d'un pays différent du pays, en fait, de la personne qu'on a invité hier, avant-hier et tout. Et chaque jour, on découvre un personnage, une culture, des choses. Donc, on est tout le temps en permanence dans la découverte. Et ça fait que, par exemple, tu finis avec ton invité, tu finis à 3h, et à 11h à midi, tu dis « Ah bah demain, je vais parler de ça. Ah bah tiens, ça, j'ai jamais fait. Bah tiens, on va faire ça, ça. » Donc, c'est de la découverte. Ouais.
Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ou tu aimes le moins dans ce... Moi, je dirais métier, parce que c'est... Je te laisse parce que tu me fais un regard, donc je parle pour te laisser réfléchir.
Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon métier? Je n'aime pas en fait cette image qu'on a du journaliste, comme quoi il doit en fait commenter ou dire tout ce qu'il voit, tout ce qu'il reçoit. On m'a souvent en fait critiqué par rapport aux publications. On m'a souvent dit pourquoi tu publies ça et pas ça. Par exemple, tu ne publies pas ça parce que tu as peur de perdre ton travail. Les gens, ils pensent en fait qu'un journaliste, il est là, il doit publier tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Tu dois en fait relayer tout ce que tu reçois, alors que c'est justement ton travail, en fait, c'est justement de dire et de déjà vérifier ce que tu reçois comme contenu. Et puis voilà, l'appartenance en fait à un tel pays fait que certaines personnes, ils peuvent te coller une étiquette, alors que tu n'es pas forcément dans ce qu'ils pensent. Donc il y a des choses positives, il y a des choses.
Mais là, tu vois, j'ai dit qu'on va parler des réseaux sociaux. Peut-être c'est le moment parce que là tu fais la transition radio. Pour moi, c'est facile.
Dis-moi.
Et aujourd'hui, c'est vrai que j'en fais partie. Beaucoup de journalistes sont friands des réseaux sociaux. Tu l'es, je le suis. On traite plus vite l'info. Enfin, je ne parle pas de moi, je parle d'une façon générale, dans l'absolu. Mais on va moins dans le fond des choses c'est sur les réseaux sociaux. Parce que certains journalistes, c'est leur média, Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux, je ne sais pas. Est-ce que tu donnes, toi, ton opinion sur les réseaux sociaux? Est-ce que... Non.
Je ne donne pas mon opinion à 100%.
Ouais.
Je fais allusion.
Tu fais allusion.
À ce que je pense. Je considère en fait.
Fais attention.
Je considère que quand il faut donner une opinion, en tant que journaliste, il faut aller vraiment chercher l'information. Il faut aller travailler cette information et donner une matière complète. Tu as dit, souvent, on ne va pas au fond vraiment du sujet. Donc, parfois, moi, je me contente souvent de commentaires où je commente des faits réels, des choses que moi, j'ai vécues particulièrement. Le problème, c'est que quand tu fais une émission et que tu as le pour et le contre, là, tu as la matière qui est complète. Sauf que ceux qui ne te connaissent pas sur les réseaux et qui te suivent, et ceux qui te suivent sur, par exemple, qui t'écoutent à la radio, quand tu vas écouter à la radio, il aura un peu plus de matière, un peu plus de profondeur. Mais quand tu vas écrire un commentaire ou tu vas publier un statut, tu as déjà zappé 50% de l'information. Et le fond du sujet, il n'existe pas à 50%. Donc, tu donnes une opinion et chacun l'interprète comme il veut. Et ça pose problème.
Mais justement, les journalistes ont perdu, pour certains, une partie de leur crédit parce que à cause des réseaux, parfois on se demande comment faire le tri dans le flot continu d'informations qui sont bien sûr à leur portée. Et beaucoup utilisent les réseaux sociaux d'une façon un peu abusive ou mal. Et du coup, moi aujourd'hui, pour avoir une information, j'allais voir certains journalistes, je ne vais plus. Parce que voilà, ils sont devenus pires.
C'est vrai, ils sont devenus pires. Parce qu'en fait, finalement, chacun en fait alimente ses convictions. C'est soit tu as des convictions et tu fais très attention, soit tu vas faire plaisir à tout le monde et puis tu n'as plus de convictions, tu n'as plus de repères et puis ta page va être vraiment une page à publier tout ce qui passe par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est très très compliqué. Parmi les choses qui ont fait que je n'ai jamais, par exemple, accepté le flux énorme de demandes d'ajout d'amis sur Facebook, c'était cette histoire en fait de savoir qui je suis sur Facebook, qui me suit, qui est intéressant à suivre, qui n'est pas intéressant à voir. Et j'ai fait l'erreur dernièrement de dire allez, open bar, tout le monde peut m'ajouter. Et je me suis retrouvée, je peux te dire, je me suis retrouvée au milieu de certains profils, Je ne comprends pas.
Hein. Ah, mais après, il y a quelque chose qui appelle supprimer, rejeter. Est-ce que tu utilises, parce que moi, par exemple, je parle de moi et je pense que tu vas peut-être me dire oui ou non. On utilise également les réseaux sociaux pour contacter certaines personnalités culturelles, des musiciens, des chanteurs, des comédiens, facilement. Parfois, plus que par...
C'est la simple raison.
Voilà, par un attaché de presse. Ça va plus vite, parfois. Ça te rend service, toi ?
C'est la simple raison pour laquelle je garde Facebook.
Ah, on est deux, alors.
Le jour où je n'aurai pas besoin de contacter des gens sur Facebook, crois-moi, je serai la première qui va supprimer sa page.
Mais en même temps, parfois, on est aussi bien informé sur Facebook, sur les réseaux sociaux,
Twitter. Je ne veux pas d'infos de Facebook.
Ah.
Souvent, je garde...
C'est pas un média, parce que c'est un média à part entière. Hein. On parle de pluralisme médiatique. Les réseaux sociaux en font partie. Aujourd'hui, tout se passe par Twitter ou par Facebook.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, je garde le silence pendant longtemps. Parfois, je garde le silence parce qu'en fait, je me dis, le silence est porteur de paix sur Facebook parce que tu publies rien, on s'intéresse pas à toi et puis on s'en fout de ce que tu fais en fait.
T'as raison. Allez, revenons à la musique ou au théâtre ou au cinéma. Quel a été ton dernier coup de cœur ?
Mon dernier coup de cœur musical ?
Allez, musical.
Musical.
Allez.
C'était Esmaello.
Ah.
Je vais découvrir Esmaello pour la première fois. Donc, c'était ce mois-là, ce mois de juillet. Et puis, c'était une belle découverte, en fait. Alors que c'est un artiste, c'est un grand artiste international.
Qui existe depuis un des lustres.
Exactement.
Et c'est une personne que tu rêverais d'avoir dans ton studio ou il y en a d'autres ou c'est pas la ligne éditoriale de Monte Carlo.
La personne que j'aimerais bien avoir dans mes matinales, c'est Yasmina Khadra. C'est possible de l'avoir.
Ah oui.
Mais je
c'est
n'ai
un
pas
bon
encore.
Il adorerait.
Parce que tu sais, j'ai une anecdote.
Il parle très bien arabe.
J'ai une anecdote avec Yasmina Khadra. Parce que quand j'ai découvert Yasmina Khadra, j'étais au Maroc. Mais on va dire que.
Je pensais que c'était une femme.
Mais je n'ai pas eu. J'ai entendu. Ah.
Il s'appelle Mohamed.
Et 3 ans après,
ouais.
Je vais découvrir en fait un livre de Yasmina Khadra et je vais aller directement et je me dis, mais Yasmina Khadra, mais c'est pas une femme. Ah oui, ça. Et c'est comme ça, tu vois, que j'ai commencé à lire à Yasmina Khadra. C'était il y a 15 ans, je pense. 14 ans.
Oui, mais tu n'étais pas la seule et tu es toujours pas la seule à croire que c'est une femme. Quelle est l'interview qui t'a fâchée jusqu'à présent, Hanan Abdallah? Moi, je peux t'en citer quelques-unes pour moi, mais je vais m'arrêter là. Moi, c'était faux d'elle.
Ah ouais.
Je pense qu'il n'existe plus, donc voilà, je suis tranquille.
Il s'est marié, ça y est.
C'est bien.
Il fait des festivals au Maroc pour le moment.
Je crois qu'il est installé là-bas.
Il est installé, oui, il est marié avec une Marocaine. Alors, l'interview qui m'a fâchée. Non, parfois, en fait, je reçois des gens que je découvre, et puis je découvre plus tard sur les réseaux sociaux qu'ils sont en mauvaise langue.
L'ingratitude.
Ouais, qui n'ont pas de principe. Finalement, ils font juste comment appeler ça en français ? Ils font bonne figure devant toi, comme quoi, oui, moi, je suis engagée et tout. Et après, tu découvres après, même si tu as fait déjà une recherche par rapport aux questions que tu vas poser. Mais plus le temps passe, plus tu dis, mais purée, je l'ai invité, mais regarde comment il parle.
Mais c'est bien de parfois les réseaux sociaux, parce qu'on découvre.
Bah oui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de principe. Oui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait.
Moi aussi, on est deux. Alors, pour terminer, comme on est dans la semaine, vendredi dernier, l'Algérie a été championne d'Afrique. Yes. Ça représente le Maghreb aussi, parce que
bien sûr.
C'est une coupe. Je dis à certains d'Afrique et pas arabe, comme certains pensent. Ils disent Sharftol arabe, etc. Ouh, non, ouais. c'est africain. Je suis désolé.
Ouais.
T'en penses quoi du racisme anti-Cannes 2019 qui s'est transformé en une haine inavouable en France.
Une haine inavouable sur Internet. Hein. Faut le préciser sur Internet. Après, je ne pense pas que entre nous, il y a vraiment cette haine, parce que voilà, quand tu vois autour de toi le nombre de personnes que tu connais, algériens, tunisiens, et puis on vit en paix. Puis sur les réseaux sociaux, on va commencer à dire par exemple, les Marocains n'aiment pas les Algériens. Il y a des incidents, mais même partout dans le monde, et ça ne représente pas vraiment la majorité des gens. Qui ont été fiers. Franchement, moi, je me suis dit... Moi, dès le début, quand j'ai regardé le premier match, le deuxième match d'Algérie, j'ai dit, écoutez, sincèrement, j'aime bien le Maroc, j'aime bien mon équipe, mais ils sont nazes. J'ai dit, l'Algérie, j'aurais dû parier, parce qu'on m'a dit, le premier jour, on nous a dit, regardez, on va mettre un pot, on va mettre 100 euros dedans.
Ah,
et, on va, et moi, je leur ai dit, écoutez, je suis sûre que l'Algérie, elle va aller minimum à la finale. Et on m'a dit, ouais, mais on ne sait pas. Nanana. J'aurais dit, bon, je vais quand même supporter l'Algérie là, et le Maroc. Comme ça, il y a une qui va gagner finalement. Mmh. Bah, le Maroc, il a perdu.
Ouais.
Donc, on est allé jusqu'au bout avec l'équipe algérienne.
J'ai vu.
Mais les gens, ils ont le droit de supporter l'équipe qu'ils veulent.
Ah oui.
Ça, c'est sûr.
Ah oui,
y a pas... voilà, après, il y a des... Pourquoi, oui, par exemple, moi, j'ai vu des commentaires, genre, pourquoi les Marocains, ils supportent les Algériens? Mais je leur ai dit, mais les Maroc-Algérie, c'est pareil. Après, ouais. Politiquement, il y a un problème, ouais. C'est entre eux.
Ouais. Et pourquoi l'Égypte a supporté le Sénégal?
Ben voilà, bah, exactement.
Tout l'Égypte n'a pas supporté le Sénégal. Certains ont supporté l'Algérie, d'autres le Sénégal. Ils sont libres, évidemment.
Ouais.
Et moi, j'ai vu au Maroc, c'est juste...
Le Maroc entier, on était dans la rue, hein.
Oui, j'ai
à Casa, bah oui.
J'ai rien compris parce que plusieurs vidéos dans... différentes de
ouais.
Partout et pas forcément d'Oujda, de partout.
Ouais,
partout.
Ouais.
Et ben tant mieux, c'est une coupe.
On est très fiers. Parce qu'en fait, c'est une coupe pour moi, c'est une coupe qui représente l'Afrique.
Bien sûr.
Je suis une Africaine, tu es un Africain, on est tous Africains et la réussite de l'Algérie, c'est la réussite de toute l'Afrique. Donc c'est une coupe en fait qui a été gagnée par un pays africain. Donc l'Algérie représente tout le monde. Et c'est tout.
Et bien, puisqu'on parle d'Algérie, Soul King qui chante Paroles les paroles, c'est yes. Ton choix. C'est ce qui termine notre émission de ce soir. On a été bavard un tout petit peu, mais c'est normal. Deux personnes qui font la radio, qu'est-ce qu'ils font? Ils papotent.
Ils parlent beaucoup.
Ils parlent beaucoup.
Merci Mourad, merci beaucoup.
Ça va, ça s'est bien passé. Tant mieux. Bonnes vacances.
Ça m'a fait bizarre de parler en français.
Ouais,
je me suis dit, j'allais pas tenir une heure, mais bon, ça va apparemment.
Arrête. Tu es en train de me rendre la monnaie de ma pièce où je dis, j'ai tenu une heure en arabe. Eh bien, merci beaucoup, Hanan Abdallah, d'être venu ce soir nous parler de toi, de la radio, de tes passions, des réseaux sociaux. Hanan Abdallah, tous les matins, pratiquement.
Si vous voulez apprendre à parler arabe, venez sur Monte Carlo Dolia.
Merci beaucoup d'être venu. On écoute Soul King.
Ok.
Et l'émission a été réalisée par Fatma Zohra. Je vous retrouve demain. Bonne soirée à l'écoute de Beurre FM. Au revoir.
On ira où la dalle nous mène. Notre histoire on l'écrira nous-mêmes. Elle m'a dit c'est pas pour ton buzz que je t'aime, oui que je t'aime. Et paroles que des paroles. Ma seule patronne à moi c'est Madara. Ils croyaient que j'étais mort, ils ont dit bon débarras. Heureusement que c'est Dieu qui danse, sinon il nous laisserait nada. Donc j'ai quitté mon village, rêvé d'une vie juste moins minable. Moi j'ai quitté mon village pour plus les entendre me dire que personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Je fais pas semblant que je les déteste. Je me souviens qu'ils me tournaient le dos parce que j'étais pauvre comme papa. Rajoute de l'argent à ceux qu'on a et enlève à ceux qu'on n'a pas. Dans la mer, ils rajoutent de l'eau. Va comprendre. Et si tu meurs de soif, toi, on t'abandonne. Si tu veux que ta vie soit belle, maquille à toi-même. On veut le monde, on va le prendre. Et puis seul homme, un rêveur parmi tant d'autres. Et mes frères sont des millions. Nos rêves nous vivront, n'écoute pas ceux qui diront que personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Ça t'étonne, les jaloux me saguent. Mashallah la légende. je rentre dans la légende. Pourquoi ça t'étonne, ma jala la légende. Les jaloux me saquent, hey, hey, hey. Na, nanani nanana. Nanani nanana. Oh nanani nanana. Nanani nanana. Nanani nanana. Nanani nanana. Oh nanani nanana.
Carte postale des artistes tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, bien plus qu'une radio.